c'est lu en plus, donc voilà. Donc c'est écrit, ça veut dire, et c'est pas du tout la idée comme quand on parle. Et par contre, je suis assez étonnée en fait. J'entends bien la nécessité aujourd'hui d'interroger les choses dans la sphère politique et de la comprendre, et bon, parce qu'elle est au sens de décision. Mais je trouve qu'on donne énormément d'importance aux politiques aujourd'hui, et justement, dans ce qu'écrit Chamoiseau, puis ça relève d'autre chose, au fond, c'est plus une approche culturelle ou plus une approche, j'allais dire, artistique, presque, mais c'est pas tout à fait ça. Et est-ce que c'est pas plus intéressant, au final, d'aller dans cette direction-là, plutôt que de s'attaquer ce qui me semble hyper lourd et infranchissable, qui est le politique. Je ne sais pas si ça a du sens.
Oui, la question était de savoir est-ce que c'était une bonne chose d'attaquer sur la dimension politique, alors que Chamoiseau ouvre une perspective qui est plus culturelle, littéraire, artistique. Alors, il y a deux choses. C'est que ce que j'ai appelé l'obsession nationale, on va dire, c'est quelque chose, c'est pas que politique, c'est, on va dire, le mot idéologique est plus peut-être utile, c'est-à-dire, c'est une trame qui se constitue, sans qu'on s'en aperçoive bien au départ, avec des intervenants intellectuels et politiques, les deux. Et souvent, les intervenants politiques vont chercher des points d'appui ou des justifications du côté des intellectuels. Hein. Montebourg, par exemple, demande à Emmanuel Todd de préfacer son livre. Et donc, on est dans le politico-intellectuel. Et donc, pour moi, évidemment, quand on a, à l'UCSN, quand on a dit qu'on s'intéressait aux frontières cette année, je me suis dit, eh ben, là, il y a quand même il semble qu'il y ait une frontière qui se consolide. Mais que tout le monde n'a peut-être pas bien vu. Elle est en train de se consolider, mais peut-être n'a pas bien vu. Bon. Il y a un deuxième élément, c'est que j'ai utilisé pour résister des ressources diverses, de la sociologie, de la philosophie et donc un texte plus littéraire, qui sont des moyens de résister, disons, ou de penser autrement, de montrer qu'en tout cas qu'il y a une autre façon d'envisager les choses que celle qui semble s'imposer sans qu'on vraiment s'en aperçoive. Alors, j'aurais pu ne pas très du tout la façon dont ça consolide dans l'espace politico-intellectuel, mais ayant une ancienne habitude, notamment des milieux politiques et intellectuels, et justement de la diversité composant chaque être humain, j'ai l'habitude que les gens puissent avoir, disons, comme supplément d'âme, un bout de Chamoiseau dans leur tête, et puis un bout réaliste de Montebourg, et puis que les deux ne communiquent pas nécessairement. Alors, j'ai voulu exprès les faire les percuter, pour montrer, ben regardez, c'est peut-être contradictoire, ces deux morceaux que vous avez en tête, sympathiques, ou Todd et Chamoiseau, etc., en fait c'est contradictoire. Et donc, obligé à ce que ça percute, c'est obligé à s'interroger. Or, c'est ça pour moi la fonction du travail intellectuel. Obligé à s'interroger sur une série d'évidences ou des questions qu'on ne se serait pas posées, si on n'avait pas posé ce type de questions. Voilà.
Est-ce qu'ils se percutent automatiquement ?
Elles ne se percutent pas en soi, parce qu'elles peuvent coexister dans la tête d'une même personne, mais elles sont logiquement contradictoires.
Oui, mais ce n'est pas forcément qu'elles se percutent.
Et donc, comme elles sont logiquement contradictoires, l'interrogation philosophique montre qu'elles sont contradictoires. C'est-à-dire, considérer l'élément national comme l'élément central, ou considérer que c'est le monde, le cadre de référence et l'alternative.
C'est pas forcé qu'elles aillent au clash. Elles peuvent coexister, tout simplement.
Oui, tout à fait. Les gens peuvent tout à fait coexister, comme ils peuvent avoir un morceau raciste, un mouvement antiraciste, et leurs deux morceaux peuvent ne pas coexister à certains moments. C'est tout à fait possible. Mais le rôle du travail intellectuel, c'est de forcer la cohérence, de montrer, ben, est-ce que là, les deux bouts de vous-même sont cohérents ou pas ? Est-ce que votre morceau Montebourg et votre morceau Chamoiseau, qui cohabitent si pacifiquement, Est-ce que pour réveiller votre intelligence, ils n'ont pas besoin de se titiller un peu pour au moins réfléchir? Mais je suis plutôt pour la nation, plutôt pour le monde, ou si je voulais articuler l'idée, comment je ferais, etc. Ben, c'est là qu'on commence à réfléchir.
Non, moi, je ne suis pas d'accord sur ce rôle-là de l'intellectuel.
Alors, ce n'est pas fait pour réfléchir, l'intellectuel. Ouais. Non.
Pas pour percuter les choses. Voilà.
Ah, pas fait pour réfléchir.
Pas fait pour percuter les choses.
Ah oui, pour percuter, c'est poser des questions. Des questions qu'on ne pose pas habituellement. C'est comme ça qu'on définit le travail intellectuel depuis Platon hein, jusqu'aux Lumières. Hein. Alors, on peut ne pas apprécier. Hein. On peut ne pas apprécier. Oui.
Vous avez parlé à plusieurs reprises de pathologie. Pourquoi avoir utilisé ce terme ?
J'utilise le... C'est parce que ça... Dans le petit pamphlet que je viens de publier sur « La gauche est-elle en état de mort cérébrale ?», j'identifie une série de ce que j'appelle pathologie. C'est-à-dire, c'est des formes de routine qui se présentent comme évidentes et qui empêchent de mettre les idées au travail. Ce que je reproche à la gauche, c'est pas d'avoir d'idées, il y en a plein, mais c'est de ne pas mettre les idées au travail, justement. Donc, c'est d'abandonner le travail intellectuel. Parce que des idées, il y en a des tas, et d'ailleurs, ou sous forme de slogans, etc., il y en a des idées, on peut dire. Bon, mais mettre au travail les idées, et donc mettre au travail les idées, les pathologies, dans ce cas-là, c'est ce qui assoupit, c'est ce qui met du l'ordre de l'évidence, qui empêche qu'on se pose des questions, qui bloque la réflexion, donc qui bloque la vie intellectuelle, on peut dire. Donc c'est en ce sens-là qu'il y a quelque chose qui empêche la vie intellectuelle de se développer, et donc c'est des pathologies. Et souvent, ces pathologies ne sont pas très visibles. Elles sont là et on vit avec, et parce qu'on peut, évidemment, on ne peut pas se poser toujours des questions. Et donc, on peut rester comme ça, à mariner, disons, dans ces pathologies. Donc c'est pour ça que ce n'est pas la nation qui est une pathologie, c'est l'obsession nationale qui est une pathologie. Parce que la nation, c'est une composante historique qui a des éléments positifs et négatifs, contradictoires. Bon. C'est le fait que la nation devienne le plus en plus le référent principal des discours politiques et intellectuels, et c'est relativement récent dans la période. Or, ce que je veux alerter aussi, c'est qu'on est dans une période qui a beaucoup d'analogies avec les années 30, en Europe, et donc la montée des fascismes, etc., où aussi cette pathologie nationaliste est montée, et la xénophobie aussi, dans une situation aussi de crise économique et sociale. Bon. Et donc, c'est pas la même chose hein, qui se passe, mais il y a une série d'analogies entre la situation des années 30 et la situation actuelle. Bon. C'est qui peut nous inquiéter. Pas une identité, mais une série d'analogies.
Vous êtes donc un temps de réflexe.
Oui, c'est comme des réflexes, oui.
Est-ce que les médias ne jouent pas un rôle important aussi dans ce nationalisme où on présente toujours, quand on parle de la France, c'est toujours une grande nation, c'est toujours la 3e, 4e ou 5e puissance du monde. On a toujours aujourd'hui, le président de la République a inauguré le Louvre de Lens. On a parlé, on a évoqué, j'ai entendu à la radio que c'était le plus beau musée du monde. On a la plus belle avenue du monde, tout le monde la connaît. Le Tour de France s'y termine chaque année. Ce matraquage aussi participe certainement à ce regard qu'on peut porter sur le pays. Et puis c'est, ça va à l'encontre finalement de l'universalité, du cosmopolitique.
Oui, il y a un fond nationaliste qui perdure dans les médias, qui est moins fort par rapport, disons, à ce qu'on a appelé la période gaulo-communiste de l'ORTF. On dit gaulo-communiste parce qu'en même temps, l'ORTF était sous dépendance du gouvernement gaulliste, mais en même temps, une bonne partie des gens qui travaillaient à l'ORTF, les réalisateurs, etc., étaient communistes, et donc il y avait une sorte de partage culturel avec l'ORTF, avec les deux chaînes au départ, une chaîne puis les deux chaînes entre ces deux morceaux, qui avait comme élément, disons, commun, la valorisation de la France. Bon. Et aussi la construction du mythe de Français qui aurait été majoritairement résistants pendant la guerre. C'était un mythe que partageaient les gaullistes et les communistes et qu'ils ont contribué à, disons, à imposer au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui. Et ils l'ont fait sur une base nationaliste. Hein. Je veux dire, il ne faut quand même pas dire que le nationalisme de gauche date des quelques dernières années. Moi, je me souviens de campagnes du Parti communiste sur le fabricant français dans les années 60. Hein. Donc il y avait quand même à la fois un discours internationaliste, on chantait l'international, et à côté de ça, l'intérêt national, patriotique même, je veux dire, c'est une constante, ça. Et c'est une constante qui date d'assez loin. C'est pour ça qu'il y a un risque à parler de maladie, ça laisse entendre qu'il y a quelque chose de sain, hein, quelque chose de sain qui serait nécessairement et directement cosmopolite, mondialiste, etc. Donc il y a quelque chose d'un peu angélique là-dedans.
Oui, hein,
enfin, gentiment angélique, hein, si on peut mettre un pléonasme. Et la deuxième chose, c'est que sur Marx, le prolétariat doit en finir d'abord avec sa propre bourgeoisie. Et c'est pour ça que sa lutte prend momentanément un caractère national. Je cite dans le désordre le manifeste communiste. C'est-à-dire que l'aspect national, il ne se constitue absolument pas en nation. Il constitue la dictature du prolétariat, qui est l'exact contraire d'une nation, puisqu'il y a une direction d'une classe qui écrase les autres, et momentanément nationale. Enfin, donc, c'est pas tout à fait. Il ne se constitue pas en nation, ça c'est faux.
Si, voilà, c'est la citation. Il est encore par là national, quoique nullement au sens moins bourgeois. S'ériger en classe dirigeante de la nation, devenir lui-même la nation. Oui, Marx écrit ça.
C'est la confusion de l'époque, dans la langue de l'époque, entre nation et État.
Alors,
il y a plusieurs trucs. J'aimerais mieux une réponse sur la pathologie et quelque chose qui serait sain et strictement, directement mondialiste.
Ce que je veux dire, c'est que l'idéal historique de la gauche depuis les Lumières est universaliste. Mais que souvent ses pratiques sont nationalistes. Je l'ai parlé de la guerre de 14-18. Voilà. Alors, j'ai parlé en fonction de l'idéal historique de la gauche. Telle qu'elle se réfère elle-même, parce que quand elle est nationaliste, elle continue souvent à se référer à l'idéal internationaliste en même temps, bon, comme étant la référence. Bon. Alors, c'est vrai, alors je ne dirais pas qu'il y a des continuités, c'est beaucoup plus compliqué. Le Parti communiste à ses débuts, avant la guerre de 40, est plutôt, il commence à s'inscrire dans l'imaginaire national avec 36. Avant, il est violemment antinationaliste. Bon. À partir de 36, il commence à occuper l'imaginaire national et il va surtout l'occuper après la résistance. Et le référent national va être important. D'ailleurs, le produire français, disons, intervient là, mais au moment, disons, où il s'agit de reconstruire. Et puis, cette dimension va s'effacer notamment à cause de mai 68, sans doute. Et donc, on ne trouve plus, dans les meetings communistes, de drapeau français, ni de marseillaise, dans les années 70. On les retrouve, disons, à la fin des années 80. Le produire français ne vient pas dans les années 60, il vient en 83. C'est la même époque que les bulldozers de Vitry. Le slogan qu'a repris récemment le centre, hein, Bayrou, c'est 83. Il y a un retour sur la dimension nationale, disons au début des années 80. Et donc, pour le cas du Parti communiste, on peut dire que il y a eu des variations historiques. Hein, et il y a eu, disons, un retour récent. Pour la famille socialiste et pour la famille syndicale aussi, c'est compliqué. Le syndicalisme révolutionnaire français, c'est-à-dire la première CGT, les Bourses du Travail, est d'abord radicalement internationaliste. Et pourtant, une grande partie des syndicalistes vont participer à la guerre de 14-18. Et une partie des dirigeants de la CGT de l'époque et des bourses du travail vont même finir dans les commissions du travail de Pétain. Il y a un très bel article de Jacques Rancière, de Pelloutier à Hitler, qui est assez intéressant. Bon. Donc il y a eu des variations sur les différents domaines. L'idéal historique restant l'internationalisme. Bon. Sur la famille socialiste aussi, l'idéal reste l'internationalisme. Et en tout cas, mon point de comparaison était évidemment la gauche moderne des années 70. Si on prend l'ensemble du meeting du programme commun dans les années 70, il n'y a ni Marseillaise, ni drapeau français. Bon. Et donc là, il y a eu un déplacement. Alors, on peut se demander pourquoi. Est-ce que les années 70 sont une parenthèse? Et c'est l'effet de mai 68 qui casse cette importance prise par la nation. Bon. En tout cas, si on compare, moi, le moment où j'ai commencé à militer dans les organisations politiques et syndicales, il y a une, entre aujourd'hui et ce moment-là, il y a une rupture radicale de conformisation, disons, à l'idiome national. Et la dimension internationaliste est de moins en moins référée comme l'idéal. Parce que déjà, il y a de moins en moins d'idéal qui est référé dans le discours de gauche aussi, hein, globalement.
Est-ce que l'absence de drapeau français dans les meetings de 70 était une référence à l'internationalisme ou une opposition au pouvoir central qui était représentée par le drapeau? Parce que moi, je me souviens, dans les années 70, il y avait aussi beaucoup de drapeaux régionaux à l'époque qui pourraient être l'opposé de l'internationalisme, le drapeau occitan ou breton.
Oui, mais il y avait les drapeaux régionaux, parce qu'il y avait des revendications régionales, mais le principal était le drapeau rouge. Et le champ principal était l'international, que ce soit au Parti Socialiste ou au Parti Communiste, que ce soit à Force Ouvrière, que ce soit à la CFDT ou que ce soit à la CGT. Et donc, ce n'est plus le cas. L'international a peu à peu disparu. Il cohabite dans les meetings du Front de Gauche avec, disons, la Marseillaise, et le drapeau rouge cohabite avec le drapeau français, dans le cas du Front de Gauche. Mais l'international et les drapeaux rouges ont abandonné les autres, le reste.
Et là, j'avais une question, juste sur votre ressenti. Là, vous parlez de la gauche ou des gauches, puisqu'il y a eu des gauches, et juste un peu me faire l'avocat du diable, est-ce qu'il y a votre connaissance des personnes ou des groupes dans la gauche dont l'électro-encéphalogramme n'est pas plat, c'est-à-dire qui planche sur des idées, sur des choses nouvelles ou des choses étonnantes ou des choses différentes?
C'est le problème du diagnostic de mon livre. Moi-même, je suis quelqu'un d'expérimental, hein, donc j'ai commencé à l'âge de 17 ans au Parti Socialiste. J'y suis resté donc 17 ans. J'ai été ensuite au Mouvement des Citoyens, j'ai été chez Les Verts, j'étais à la Ligue communiste révolutionnaire, puis au nouveau parti anticapitaliste, donc j'ai voyagé dans les différentes organisations de gauche. J'ai connu un parti socialiste très vigoureux intellectuellement à la fin des années 70, on n'en a pas idée. Par exemple, au sein du Parti socialiste, il y avait 5 revues théoriques à l'époque où j'étais militant, 5, dont la revue principale du parti, plus 4 autres de courants très différents. Bon. Ces revues tournaient toutes autour du logiciel principal de l'époque qui était le marxisme, sauf un courant qui était le courant rocardien qui était dans un rapport critique. Donc y compris au sein du Parti Socialiste, il y avait une vie intellectuelle. Bon. Mais il y avait une vie intellectuelle dans beaucoup d'endroits. Bon. Aujourd'hui, c'est très difficile de le dire. Il y a une sorte de... J'essaye de montrer dans le livre comment, pour des raisons en partie différentes et parfois transversales, les différents courants abandonne le travail intellectuel, y compris, disons, le parti dans lequel je suis, c'est-à-dire le nouveau parti anticapitaliste. Moi, je ne le mets pas de côté.
Il y a des choses toutes petites qui fonctionnent quand même. Des gens comme Temps Critique, Jacques Van Stein, mais c'est confidentiel.
Oui, mais c'est pas il parle des organisations politiques.
Ben, c'est une organisation, je veux dire.
C'est une revue.
C'est une revue.
Non, il y a des revues, oui, il y a des revues, il y en a plein de revues. Des revues, il y en a.
Oui.
Des revues, il y en a, il y a Temps Critique, c'est petit, mais il y a des choses comme Vacarme, comme Multitude, comme Contre-temps, comme Réfraction pour les anarchistes, comme Éco-Ref pour les écologistes. Non, au niveau des revues en France, il y a des revues où il y a du travail intellectuel. Ces revues n'ont de moins en moins de lien avec des organisations politiques, il y a de moins en moins de passages, et avec même les syndicats, donc les mouvements sociaux. Il y a de moins en moins de passages, en fait. Donc, ce que je dis dans mon livre, c'est pas qu'il n'y a pas plus de travail intellectuel en France, mais que c'est l'espace où il y aurait un lien entre les organisations politiques, les mouvements sociaux et ce travail intellectuel qui n'existe presque plus. Voilà. En fait, c'est cet espace de fabrication coopératif, de confrontation qui n'existe plus beaucoup, qui a existé, qui n'existe presque plus. Et donc, à ma connaissance, non, les organisations politiques sont bien affaiblies. Et, comment dire, il y a un autre facteur qui est important, qui est, c'est du côté dominant, la pensée technocratique domine, c'est-à-dire une découpage en problèmes, hein, l'économique, le social, la compétitivité, etc. On découpe les éléments en problèmes et on n'a plus de vue globale des choses. De manière juste, dans un premier temps, dans les mouvements sociaux, à partir des mouvements sociaux, est née une contre-expertise. Alors, quand il y a un projet gouvernemental, il y a une contre-expertise sur les retraites, sur autre chose, etc. Il y a un rapport sur la compétitivité, il y a un contre-rapport. C'est des choses que font bien le conseil scientifique d'attaque, dont je suis membre, et les économistes du conseil scientifique, ou la fondation Copernic, par exemple. On fait de la contre-expertise. Bon. Le problème, c'est que peu à peu, la contre-expertise est devenue le principal de l'activité intellectuelle dans la gauche critique. C'est-à-dire, c'est comme si il n'y avait plus de pensée globalisante critique dans les gauches critiques organisées, mais que c'est une sorte de pendant de la pensée technocratique, qui est la contre-expertise, qui est importante, mais qui ne devrait pas occuper tout cet espace. Dans mon livre, je prends un exemple qui m'est proche, hein, parce que j'essaie dans le livre de critiquer aussi les lieux où je suis militant. Dans la dernière université d'été d'attaque à Toulouse, 43 ateliers, 3 ateliers de pensée critique globale. 40 sur des thèmes plus sérieux, techniques, critiques, économiques, concrets, comme on dit, etc. Aujourd'hui, parce que ce qu'on appelle technique aussi, on va appeler concret. Bon. Et du côté des réponses aussi, donc des réponses concrètes, etc. Et mon problème n'est pas que ça devienne 100% pensée critique, même que ça devienne la moitié. Mon problème, c'est que c'est 3 sur 43 qui me pose problème. Parce que c'est un certain état, y compris des gauches critiques.
Est-ce que ça ne s'appelle pas le réformisme ?
Ça peut être radical aussi. Hein.
Un réformisme peut être radical.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir il peut y avoir des révolutionnaires qui, peu à peu, dont l'activité principale est de donner des réponses, disons, programmatiques et techniques, et peu à peu de déserter le plan de la pensée globale critique. Donc, évidemment, c'est plus souvent ce que tu vas appeler réformiste, mais ça pourrait toucher les révolutionnaires aussi.
Oui, en gros, qui invente ? Qui invente en ce moment ?
J'ai parlé de certains de chercheurs, hein, donc il y a des chercheurs individuels qui font des choses. Ils ont de moins en moins de rapports avec les mouvements sociaux. Il y a un livre intéressant qui a été fait par un chercheur, Azmik Kechoyan, qui s'appelle Hémisphère Gauche. Il fait l'état de la grande vitalité des pensées critiques dans le monde, hein, pas simplement en France, mais dans le monde, aujourd'hui. Mais il montre que la caractéristique, c'est qu'elles sont très vivaces à l'échelle internationale, mais que contrairement aux situations antérieures, elles n'ont quasiment plus de rapport avec des associations, des syndicats, des organisations, des mouvements sociaux, etc. Voilà. Et donc, elles se font à l'université en vase clos, en général. Elles se font en général mieux dans l'université américaine, parce que c'est là, avec les rapports impérialistes, où c'est le plus valorisé. Donc, les grands penseurs indiens, africains, etc., à un moment donné, vont occuper une chaire dans une université américaine, quand ils sont des grands penseurs critiques. Et l'université américaine, d'ailleurs, accueille sans doute la plupart des grands penseurs critiques dans le monde, aujourd'hui. Mais l'université américaine a peu d'écho sur la société américaine, hein, c'est l'université américaine, c'est vrai, elle est extrêmement accueillante, beaucoup plus que la nôtre aux penseurs critiques, bon. Mais sans que ces penseurs aient un lien avec des pratiques politiques, sociales, etc. Voilà, c'est le gros problème. Et il y a eu une petite amorce au moment de Occupy Wall Street d'intellectuels américains comme Nancy Fraser, comme Judith Butler, etc., qui sont connectés à ces amorces de mouvement. Bon. Donc là, il y a une petite amorce, ça s'est fait après le livre de Kechoyan, mais c'est plutôt la caractéristique, c'est ce manque de lien. C'est que c'est pas qu'il n'y a pas de travail intellectuel, c'est que c'est un travail intellectuel plutôt individuel, en général, parfois un peu collectivisé dans les revues, coopératifs, avec des petites revues, avec peu d'écho, hein. Toutes ces revues, en général, c'est quelques centaines de gens qui achètent ça, parfois pour les plus gros, c'est un millier, voilà. Et donc, mais voilà, c'est ce que j'appelle mort cérébrale de la gauche, c'est plutôt cet espace que le fait qu'il y ait, c'est pas le fait qu'il n'y ait plus de travail intellectuel en France pour des gens qui se réclament de la gauche, il y en a encore.
Parce qu'au fond, on peut questionner quand même aussi, donc, je m'aperçois que bon, le politique est très près de la philosophie, je viens d'apercevoir qu'en fait l'intermédialisme c'était une philosophie, même si pour vous c'est... c'est autre chose. Et du coup, ça pose la question justement, vous parlez de si peu d'investissement en fin de compte, la difficulté qu'a le citoyen lambda en fait d'accéder à la réflexion, donc au savoir. Hein. Et moi, ça pose la question de. Dans le cadre des enseignements, donc. Dans le cadre des programmes d'éducation nationale, la philosophie, entre guillemets, elle est enseignée en terminale. Moi, ça fait longtemps que je pense qu'elle doit être enseignée déjà dès le collège. Est-ce qu'au fond, il ne manque pas, là, c'est-à-dire que dans le corpus des savoirs, est-ce que ça pêche quelque part et on n'ouvre pas, on n'aide pas non plus cet esprit critique, il n'est pas du tout, enfin, ou trop peu. Travailler, au fond, et valoriser, et dans les programmes, on ne le retrouve pas forcément.
Oui, ça va, c'est contradictoire. C'est-à-dire qu'il y a des héritages de luttes antérieures, bon, qui fait que, bon, il y a la classe de philosophie qui a un certain effet. Alors après, ça dépend du rapport que tel ou tel enseignant a avec la philosophie. Hein. Il y a des philosophies qui questionnent plus ou moins. Bon. Et puis... il y a aussi l'introduction, disons, surtout à ces transformations dans les années 70 des SES, les sciences économiques et sociales, qui introduisent un peu de sciences sociales, disons, dès le lycée. Et donc, qui introduisent des éléments critiques de sciences sociales dans le lycée. Et il y a les dimensions plus anciennes, disons, de l'histoire, qui met en perspective historique, donc, ce qui est un élément important. Donc, il y a des éléments, quand même, de points d'appui critiques. Dans l'éducation. Alors, peu à peu, il y a eu des transformations des programmes, il y a eu une pression sur les programmes, il y a une... aujourd'hui, les professeurs de sciences économiques et sociales ont fait grève récemment parce que le programme a été transformé, devenu trop lourd, ce qui fait que pour préparer les examens, on n'a plus le temps, en fait, de préparer vraiment à la réflexion critique, mais on est obligé de faire du bourrage d'élèves, donc ça c'est un problème des programmes, et donc ça rejaillit le contenu du programme sur les modalités d'enseignement, hein, donc il y a des éléments critiques qui sont encore dispensés en France dans l'éducation nationale, mais de manière limitée. Tout ce qui est globalisation, c'est vrai, comme la philosophie est rejetée sur la fin, bon. Donc, évidemment, ça donne des ressources de globalisation, la philosophie. Et ensuite, il y a l'après. Alors, il y a justement les réseaux tâtonnants de ce qu'on fait ici, c'est-à-dire des universités populaires. Voilà. Les universités populaires, ça vise à rendre disponible du savoir qui existe par ailleurs, mais qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. Peut-être qu'une part d'entre vous, sans doute, avait entendu parler de Kant, mais précisément sur la cosmopolitique, pas nécessairement. Marx, peut-être plus. Connaissait pas forcément Nancy Fraser, le Richbeck, ou ce que peut dire Chamoiseau aujourd'hui. Voilà, donc les universités populaires, ça sert à ça aussi. Alors, c'est petit, hein. Et on a, par contre, une vision de plus en plus segmentée du savoir qui est
spécialisée.
Qui est dominant à l'université, où là, on a de plus en plus de mal à faire des liaisons globalisantes, voilà, ou des passages transfrontaliers entre la sociologie, la philosophie. Les gens font... Un sociologue, aujourd'hui, peut faire toute sa carrière sur la sociologie du crédit agricole. Hein. Bon. Donc, au bout du compte, il connaîtra tout sur le crédit agricole. Mais la spécialisation des savoirs pousse plutôt à ça. Bon. Moi, j'ai commencé par une thèse de sociologie sur le syndicalisme, mais on voulait que je fasse toute ma vie sur le syndicalisme. Alors, j'ai voulu changer d'objet en fonction des moments. Mais ce qui aurait été normal, c'est que je fasse toute ma vie sur le syndicalisme.
Et sur les riches?
Sur les riches, il y a des gens qui s'en occupent maintenant. Il y a des gens qui s'en occupent.
45 ans sur les riches. Ça devient dur.
Mais est-ce que vous ne croyez pas, est-ce que vous ne pensez pas que peut-être toutes ces révolutions technologiques, cette ouverture complète au monde, qui aurait besoin peut-être de s'appliquer aussi à l'enseignement, parce qu'on est dans une autre dimension, devrait peut-être aussi s'appliquer à la politique, ce qui permettrait peut-être de trouver des passerelles entre les penseurs d'une part et les politiques en charge des applications qui pourraient naître de ces pensées.
Oui, mais la technologie ne permet pas de créer les conditions du lien nécessairement. C'est-à-dire que les penseurs critiques plus globalisants ont été remplacés pour les politiques. Par qui ? Par des technocrates d'abord, ceux qui remettent des rapports, qui donc remettent des rapports sur des éléments spécialisés.
Et eux, ils sont aussi sur...
Voilà. Et une part de l'aliment principal intellectuel des politiques, c'est la lecture des rapports. Bon, ça doit être 80% de l'aliment intellectuel, les rapports. Bon. Après, il y a les journalistes qui ont remplacé, c'est-à-dire ils lisent la presse. Donc c'est les médias. Alors, avec un peu Internet, parce qu'on va lire des choses sur Internet, mais les choses qui sont censées compter sur Internet, évidemment. Il y a deux choses que cherche l'homme politique professionnalisé aujourd'hui. C'est des techniques pour gouverner. Ça, c'est les technocrates qui lui donnent. Et... des trucs pour gagner. Alors, parfois, maintenant, on appelle ça idée. Comme, on va dire, on va lancer identité nationale, on va, compétitivité, etc. On veut dire, ça peut être des idées. Ce n'est pas des idées au sens du travail intellectuel. C'est plutôt des slogans, c'est plutôt une vision marketing de l'idée. C'est-à-dire, il faut un mot ou deux mots pour incarner, à un moment donné, une possibilité. Hein. Le changement, c'est maintenant. Bon, c'est une idée. Voilà, c'est une idée. Alors, bon, c'est ça qu'on... Maintenant, alors, ces idées-là, c'est plutôt des publicitaires qui les fournissent. Hein, parfois, des intellectuels professionnels participent. Hein, Emmanuel Todd, avant de venir polluer de manière nationaliste la gauche, avait donné l'idée principale de la campagne de Jacques Chirac, hein, la fracture sociale. Rappelez-vous, c'était son principal conseiller. Donc, c'est Emmanuel Todd qui avait trouvé la fracture sociale. Bon. Donc, on attribue à Emmanuel Todd le fait d'avoir réussi à faire gagner Chirac contre Balladur avec la fracture sociale. Bon. Donc là, c'était une idée. Bon. Voilà. On voit bien ce que c'est les idées. Hein. Les idées, ce n'est pas ça qui sert à gouverner après. Parce que la fracture sociale, après, c'était plus le problème. Bon. Une fois qu'on a gagné. Bon. Après, il y a eu le plan Juppé. Là, c'était la technique. C'est-à-dire un plan d'austérité. Donc voilà, les deux aliments principaux, c'est... des idées au sens marketing, au sens médiatique, et des techniques pour gouverner. Et donc, on a l'impression que les hommes politiques n'ont pas nécessairement... Pourquoi ils auraient besoin de resituer leur action dans un cadre plus global, voilà. Cet élément-là n'est pas évident. Bon. Voilà. Et il existait avant, hein, un des grands... évidemment, le prototype de ça, c'est Jaurès, c'est-à-dire c'est un philosophe de formation... qui a une thèse de philosophie. Quand il écrit ses articles dans l'Humanité ou quand il fait ses discours au Parlement, c'est des discours à la fois politiques et philosophiques, toujours. Il associe les deux. Les deux sont associés. Prenez quelqu'un qui a le même profil que Jaurès aujourd'hui, qui est Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale. Il a aussi fait une thèse de philosophie, une assez bonne thèse de philosophie sur Maurice Merleau-Ponty. Donc c'est un philosophe professionnel au départ. Eh bien... C'est pas Jaurès. C'est-à-dire qu'il y a sa part philosophique qui est quelque part entre lui et son travail. Et puis il y a sa part politique. C'est-à-dire qu'il y a une schizophrénie. Les deux ne communiquent plus comme à l'époque de Jaurès. Bon. Il n'y a pas de communication entre les deux. Voilà. Donc si on passe de deux de profils proches, hein, Jaurès à Peillon, on a deux rapports assez différents Et là, il n'y a pas nécessairement besoin de... Donc, si j'attends moins des hommes politiques professionnalisés qu'il se passe quelque chose que des citoyens et des militants qui pourraient, eux, faire de la question du travail intellectuel quelque chose d'important, parce que peut-être, eux, ils ont besoin de se situer dans le monde de manière plus globale. Leur problème n'est pas simplement de trouver une technique, etc. Et indirectement, après, ça pourrait peser sur les hommes politiques, indirectement. Mais je ne suis pas sûr que directement, ça va passer des milieux intellectuels, même via Internet, aux dirigeants politiques.
Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils sont professionnalisés, justement, qu'ils ne réfléchissent plus ?
C'est un poids, le travail intellectuel aujourd'hui, dans la professionnalisation pour gagner. Je prends l'exemple 2008, je prends un entretien de Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, dans mon livre, dans Libération. Bon. Pierre Moscovici est alors, se tâte pour être candidat à la primaire socialiste. Il ne savait pas encore, parce qu'on ne sait pas ce que Strauss-Kahn devait faire, donc lui-même hésitait. Donc il est en pré-campagne, disons. Alors il fait un entretien à Libération et puis il a, paraît-il, de preuve à lui, une mauvaise image au PS. Il a une image d'intello. Bon. Moi, je connais un peu Moscovici, parce qu'il était... Il dirigeait un service au plan pendant que moi, je faisais un travail sur l'évaluation des politiques publiques. Bon, c'est une image assez flatteuse pour lui, intello, à mon avis. Bon. Mais bon, dans le Parti Socialiste, il avait une image d'intello. D'intello. Et alors, ils essayent de se débarrasser de cette image. Et alors, il dit à Libération, mais non, je ne suis pas un intello, je suis un homme d'appareil. Et il rappelle que ça fait 15 ans qu'il est trésorier du Parti Socialiste. Et donc, en 2008, un homme politique qui est devenu un des principaux ministres du gouvernement préfère apparaître comme un apparatchik que comme un intello. Intello, c'est négatif, apparatchik, c'est bien positif par rapport à intello. Donc on voit bien un peu quand même une forme de dégradation quand même du problème.
Enfin, il faut se garder de faire du bassisme ou basisme. Enfin, bon, on peut taper sur le personnel politique, professionnalisé ou pas, bon... pas adhérer à ça. Mais en même temps, si on laisse entendre que ces gens-là sont arrivés un peu en fraude, qu'ils n'ont rien à y foutre, qu'ils sont absolument pas, légitimes, oui, absolument, on laisse entendre qu'il y a eu quelque part un événement, une brisure, une cassure entre la volonté populaire qui s'exprime dans les urnes, comme on nous dit en démocratie, et l'arrivée de ces types-là. Or, on a tous été soulagés de se débarrasser de Sarkozy.
Oui, mais ça va pas bien.
Hein. Ben oui, en quelque sorte, c'est ça la conclusion. C'est-à-dire que ils font l'équipe Hollande fait en gros, à des nuances près, il fait à peu près la même politique que Sarkozy. Et j'ajouterais que malheureusement, si Mélenchon avait été élu, il ferait la même politique. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont beaucoup plus contraints que ce qu'on pense. Hein. Parce que quand même, la contrainte dominante, c'est le capitalisme, qui est mondial, qui est assez structuré, et qui utilise les politiques comme des pantins, hein, c'est des marionnettes de ça. Et je peux vous dire que le mondialisme, du point de vue du capital, il est fait. Il est fait, il est bien fait, il est solide. Le nôtre est un peu en retard, le mondialisme et l'intentionnalisme. Mais je voulais juste terminer là-dessus. Hein. Il ne faut pas laisser entendre qu'il y aurait un espèce de fond sain. C'est la même réflexion que par rapport à la maladie, la pathologie. Hein. Jaurès, si vilain, l'avait raté, parce que c'est vilain qui s'appelle l'autre. Bon, il le tue. Heureusement qu'il le tue, parce que sinon il passe avec armes et bagages, comme la plupart des socialos, dans la défense nationale. J'en sais rien, enfin j'ai des forces. Vu le nombre de gens qui ont versé là-dedans, hein, et qui sont partis plus ou moins la fleur au fusil contre le Bosch, etc., pour reconquérir l'Alsace-Lorraine et toutes ces conneries, cet effondrement complet. Je vous rappelle qu'en Allemagne, il y a un député qui refuse de voter les pleins pouvoirs, c'est Liebknecht. Et c'est le seul qui vote contre. Tout seul au Reichstag, tout seul, il refuse les crédits de guerre. Bon, un type. Et en France, il y en a eu zéro. Hein. Il y avait de vote là-dessus, mais enfin, il y en a... Donc, Jaurès, faut pas mythifier, quoi. Je veux dire, les gens sont ce que les circonstances les font. Hein, parce que je suis un peu marxiste. Hein. Et je crois que notre personnel politique, un, c'est celui qu'on mérite. Il faut avoir le courage de dire qu'on mérite le personnel qu'on a mis en place. Et deux, ce qu'ils font, c'est en gros la gestion plus ou moins intelligente, plus ou moins vaselinée du capital.
Ben alors on prend l'exemple de l'Italie.
Il y a quelqu'un qui voulait. Il y a quelqu'un qui voulait parler depuis longtemps.
Moi, je voulais juste intervenir au niveau de. Parce que vous avez parlé de slogan politique et l'intelligence. Donc je vois peut-être dans le. Pour les hommes politiques, si franchement il faut utiliser les slogans comme. Ce que vous avez dit tout à l'heure, la Francfort, l'immigration, exorbitant, je ne sais pas quoi, etc. Sans trouver peut-être. Sans faire appel aux vrais intellectuels politiques, voir comment faire sortir et trouver un autre moyen de pratiquer une politique intelligente. Parce que comme M. vient de dire, j'espère que dans ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont à peu près des amis qui tournent, qui ont les mêmes plans et qui pratiquent les mêmes politiques. Parce que si Sarkozy est parti, François Hollande aujourd'hui fait la même politique de Sarkozy. Il n'y a rien qui change, à mon avis. Bon, moi, ce que je voulais savoir, c'est que vous ne trouvez pas que les politiciens français sont en train de perdre beaucoup l'intelligence, parce qu'ils sont intellectuels, bien sûr, mais ils ne pratiquent pas ça. Parce que quand ça les dépasse, ils se cachent derrière l'immigration.
Intellectuel, mais pas pratiquant.
Pas pratiquant. Ouais. Quand ça les dépasse, ils trouvent un slogan que pour nous tromper, que nous on est la France forte. Ou bien quand ça les dépasse, ils disent c'est l'islam. Mais l'islam n'est pas un crime. La pédophilie, comme vous avez parlé tout à l'heure, n'est pas un crime. N'a rien à y voir avec la politique. La politique, pour moi, c'est que bon, il faut chercher à résoudre le problème de ce qui ne va pas et comment on peut trouver la solution. Donc, je voudrais savoir, franchement, comme vous avez cité votre parcours, vous êtes passé dans le Parti Socialiste avant de vous retrouver là où vous êtes. Qu'est-ce que vous pouvez, moi, personnellement, me dire ce qui ne va pas, franchement, au lieu de se cacher derrière l'arbre, pointer une autre personne? Vos deux mètres présentés, le pointer directement. C'est un proverbe africain qui dit, quand tu te lèves, tu cherches à voir la maison de l'autre. Il faut que tu saches qu'il y a une personne qui est derrière, qui cherche à voir ta maison. Par ça, il y a beaucoup de choses, si on se met à citer, que franchement, excusez-moi d'aller plus loin, le français, depuis le Chirac, Giscard, Chirac et Sarkozy, le 5 dernières années de Sarkozy, la France, au niveau occidental, est mal vue. La France a mené une politique sale. Et je cherche à savoir, parce que moi j'ai vécu, et je suis passé quelque part, et quand je sors, ma piste d'arrêté en tant que Français, on nous traite des réfugiés. Réfugiés parce qu'on fuit notre pays, pour aller là où c'est bien. Je vois que je ne suis même pas fier de notre exemple en tant que Français. Et c'est grâce aux politiciens. Parce que je ne vois pas. Le Parti Socialiste ne fait rien du tout que le Parti UMP ne fait rien. Hein. C'est parce qu'il n'y a pas l'intelligence, mais il ne met pas ça en pratique. Non, c'est ce que je veux savoir, franchement, pour essayer de comprendre. Parce que depuis que vous avez parlé, tout ce que vous avez dit, depuis les années 70 à aujourd'hui, là où on ne pratiquait pas le drapeau. Ça, c'est la corruption. Pour moi, c'est la corruption. Parce qu'aujourd'hui, une campagne présidentielle, quand on sort le drapeau français, on chante la Marseillaise. Et après, quand on vous met peut-être à la présence, tout ce que vous nous avez promis, ça devient le contraire. Quand ça vous dépasse, vous sortez à la télé et dites c'est la faute des autres. Donc, c'est par rapport à ça que je voulais franchement m'inscrire pour savoir franchement qu'est-ce qui ne va pas au sein. Ils sont incapables, ou bien c'est parce que c'est des amis.
Et il y a Josiane qui voulait.
Oui, non, je voulais dire que c'est pessimiste tout ça. Et dans tous ces morcellements, il existe quand même aussi des endroits où on se qu'on crée aussi. On parle beaucoup du territoire en transition. On voit bien, si on reste dans le Gard, dans les Cévennes, que les gens essayent de s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Et que c'est peut-être pas du côté du politique qu'il faut chercher les choses, que c'est peut-être du côté du citoyen et que c'est notre propre émancipation qui est en jeu dans cette histoire-là. Plutôt qu'effectivement. Et peut-être que le croisement et la rencontre, c'est peut-être ce type de culture qui est en train de se mettre en mouvement, qui est en marche, mais dont on ne parle pas, dans les médias, effectivement, met tout ça de côté, ainsi que les politiques, et on voit bien ce qui se passe en fait.
Bien, il y avait plusieurs problèmes. Je suis d'accord sur la question du basis, c'est pour ça que j'ai terminé ma première partie sur si on critique l'essentialisme, on ne peut pas avoir une vision, disons, simplement du sommet qui serait corrompu, de la base qui serait pure. Et donc, simplement, je me suis même inquiété de savoir pourquoi dans les publics critiques que je connais, ne serait-ce qu'ici à Nîmes ou à Lyon où je travaille, pourquoi tant de gens ont pu fonctionner derrière Montebourg, pourquoi tant de gens ont pu fonctionner derrière Emmanuel Todd, pourquoi tant de gens ont pu fonctionner derrière Lordon, etc. Pourquoi ces trucs-là fonctionnent, bon. Et comment, en leur donnant sa voix, son intérêt, etc., on contribue à les faire fonctionner. Évidemment, parce que s'il n'y a personne qui suit, ça ne pèse pas. Donc il faut bien que des gens suivent. Bon. Et donc, le problème de la situation, ce n'est pas les méchants gouvernants, c'est la relation gouvernant-gouverné. C'est la relation qui pose problème. Mais ce n'est pas les méchants gouvernants et les bons gouvernés. Bon. C'est la relation qui lie les deux et qui crée ces espèces de problèmes. Bon. Alors, c'est là où je rebondis sur Josiane. C'est vrai, à partir du moment où c'est la relation, eh ben, commençons. Et comme on peut avoir une vision assez pessimiste, disons, de la situation des professionnels de la politique, qui se sont, disons, davantage autonomisés qu'à une période. Bon. Essayons des trucs. Voilà. Parce que je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Tandis que il y a une dimension, et c'est là où il faut combattre le basisme aussi, dans la tradition particulièrement française, qui est moins expérimentale qu'en Allemagne, qu'aux États-Unis, qu'à dans d'autres pays, où on a tendance à attendre de tout des dirigeants, finalement, au bout du compte. Et des dirigeants centraux et de l'État. Bon, il y a une forme d'étatisme très fort. Et on attend tout du grand intellectuel aussi. Donc on voudrait que, si ce n'est pas l'État, c'est l'intellectuel qui va avoir la solution à tout. Et donc, plutôt que de commencer à son niveau, soi-même, à prendre en charge les choses. Bon. Donc là, il y a un vrai problème. C'est pour ça que la question que vous posez, je ne sais pas s'ils sont intelligents ou pas, je pense que la définition de l'intelligence a changé. C'est que l'intelligence, encore jusqu'à Mitterrand, elle avait une dimension encore coloration philosophique et littéraire, et que maintenant, la définition, l'intelligence dominante chez les politiques, elle est technique et technocratique. Donc la définition même de l'intelligence. Alors être intelligent, c'est la compétitivité, c'est découper les programmes, etc. Donc c'est la définition même de l'intelligence, c'est les politiques qui a bougé. Et donc le problème, c'est de pas d'attendre des politiques quelque chose, c'est comment on peut à notre niveau commencer à changer les relations. Parce que et pas être dans la logique d'attente. Parce que ce que je vois, c'est que on attend à chaque fois le nouvel homme providentiel. Alors on en change constamment. Mais finalement, on attend quand même. Et puis on refonctionne la fois après aussi encore. Il y en a un nouveau. Puis celui-là, il est peut-être mieux quand même, etc. Et donc on recommence à l'idée que c'est ça. Bon, là. Si on dit on commence à se prendre en charge nous-mêmes intellectuellement et pratiquement, ça change déjà les choses. C'est pas ça qui va. On voit bien que c'est pas ça qui va suffire. Hein. Ça ne peut suffire que s'il y a des millions de personnes qui font le même mouvement et qu'elles se coordonnent. Bon. Mais on voit bien que l'idée d'attendre du grand politique ou du grand intellectuel la solution, à mon avis, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et il faut commencer là où on est, à commencer en faisant des liens entre des milieux alternatifs, des mouvements sociaux, des milieux intellectuels, des milieux artistiques, etc., à commencer à faire des choses indépendamment de ce que font les dirigeants politiques.
Par penser global, agir local.
Oui.
Il y a une partie de la société qui a bien réussi l'universalisme, ce sont les 1% qui détiennent le capital. Or, ces gens-là ont vraiment mis de. On a mis surtout par les. Ils ont formé une façon de penser globale. Parce que pour les citoyens à gauche, ils vont penser à la même chose. Parce qu'avec leur monopole et tout ça, ils ont mis la main mise sur tout. Donc, oui. Les gens étaient
mais justement, ils représentent, un défi pour nous. C'est-à-dire,
voilà.
La solution, c'est quoi ? C'est de trouver une autre globalité ou c'est de dire, comme Montebourg, eh ben, fermons Madrid pour sauver Aulnay. Parce que fermons Madrid pour sauver Aulnay, c'est aussi c'est le mode de dirigeance du capital. C'est-à-dire, les Espagnols et les Français vont rester dans la compétition. Chacun arrivera à arracher un bout à un moment ou un autre, et puis ça changera en fonction des moments, etc. Et puis, le capital n'a rien à craindre dans ce cas-là. Hein. Bon. Et donc, cette idée peu à peu que, mais y compris dans des groupes de gauche, que finalement, comme le capital est mondialisé, les élites sont mondialisées, que finalement, quand on est de gauche et critique, et le populaire, ça va être national, on va défendre le national, parce qu'eux, ils sont au niveau mondial. Ça, c'est une idée qui commence à s'enraciner, hein, et d'où la réévaluation, y compris à l'extrême gauche, du référent national aujourd'hui. Bon. Et donc, face à ça, à mon avis, il faut trouver des modes de globalisation alternatives. Évidemment, il y a des mouvements sociaux à jouer un rôle. Internet permet de lancer des choses. Aucun grand syndicat, par exemple, même de syndicats alternatifs, moi je suis membre d'un syndicat sud, n'a lancé un mot d'ordre de grève pour soutenir les Grecs. Pourquoi ? C'était quand même la solution la plus évidente, lancer un mot d'ordre de grève européen pour soutenir les Grecs. Et qu'est-ce qu'on fait ? Non, on veut passer par le national, par les dirigeants politiques nationaux, parce que c'est toujours le cadre national qui... Oui.
Et où en plus, les cadres nationaux, il y a ce fameux ENA, où beaucoup passent par cette espèce de formatage. Quand on lit Hugues Roy, là, de, comment il s'appelle on est assez... Et oui, et par contre, quand il y a un mode de vie nouveau, comme par exemple à Notre-Dame-des-Landes, eh ben, ça attire toutes les... la violence policière, etc. Enfin, on essaye de noyer cette affaire-là, de vite l'étouffer, le panoptiste, il faut l'enrayer.
Et ce qui est intéressant dans Notre-Dame-des-Landes, c'est que c'est de reconstituer du global à partir d'un événement local. Hein.
Tout à fait.
Et qui met un peu en difficulté le gouvernement, alors parce que c'est symbolique, hein, puisque c'est le Premier ministre, donc ça crée tout de suite un problème national, mais qui est intéressant pour ça. Ben, c'est d'autant plus le problème de la situation, c'est-à-dire le fait que le référent national monte, puis il y a une crise économique, puis il y a un succès quand même en Europe de la xénophobie et des partis de droite extrême. Bon. Et que, y compris la gauche, fait monter le référent national comme la solution. Alors, de manière différente hein, dans les différentes gauches, la gauche hollandaise au pouvoir, comme la droite sarkozyste, les deux ont fait monter le référent national dans la campagne. Pourtant, toutes les deux font l'inverse, c'est-à-dire au sens où elles savent clairement que la nation ne vaut plus dans la gestion actuelle. Donc là, on a un usage, disons, un peu cynique, disons, du référent national, comme un élément de slogan, mais toutes les pratiques vont plutôt pour défaire les cadres qui restent de possibilités de l'État-nation. Et puis, il y a la forme, disons, type Front de Gauche, qui est une version nostalgique. C'était mieux avant, voilà. Alors là, ce n'est pas la nation, où il n'y a pas ce rapport forcément cynique, où on sait que ça ne sert plus à rien, c'est l'idée, on va retrouver un lieu où c'était protecteur. Bon. Mais ce faisant, on réaffirme que c'est vraiment le national, que ce qui est fort, c'est le lien entre le national et le social, etc. Et donc, on contribue, sous une forme soft, à donner de la crédibilité à ceux qui ont une autre attitude d'alternative, hein, qui est le lien vraiment national, nationaliste et du social, et qui sont une alternative aujourd'hui en Europe, pas forcément sous les formes extrêmes qu'on a connues du nazisme ou du fascisme, mais sous des formes, disons, problématiques quand même ou contestables, parce que les choses se répètent jamais exactement de la même façon. Voilà, donc si j'ai tenu à faire ce... Et comme on va dépasser l'heure, ce topo aujourd'hui, c'est parce que c'est justement la question de la situation. C'est que je pense que cette montée de l'obsession nationale dans un autre contexte aurait été moins problématique. Mais aujourd'hui, il est particulièrement problématique dans le contexte. Voilà. Il est particulièrement dangereux, périlleux. Quoi.
Mais est-ce qu'on se différencie des autres nations, à part l'anglo ?
Plus ou alors, ça dépend plus ou moins. Il y a beaucoup de formes contestatrices. Il y a une montée du nationalisme dans beaucoup de nations. On l'a vu en Grèce aussi, etc. Mais dans les forces critiques, il y a des forces. Tout à l'heure, je parlais du débat avec Lordon où Lordon défendait la solution nationale, mais Attaque Allemagne est devenu le plus gros groupe d'attaque dans le monde aujourd'hui, plus que la France. C'est le groupe d'attaque qui s'est le plus développé. Bon, alors voilà, il y a des forces critiques dans le monde. En Grèce, Syriza est une force qui ne défend pas le retour à la nation grecque, etc., mais défend, et d'ailleurs elle ne défendait pas la sortie de l'euro, mais un autre type d'Europe. Bon. Donc toutes les forces ne tombent pas dans le même piège nationaliste, hein, partout, dans tous les pays. Mais dans tous les pays, il y a une montée du nationalisme et de la xénophobie, plutôt.
Et l'Argentine, par exemple, applique un nationalisme actuellement pour se sortir de la mondialisation capitaliste. Enfin, sortir pour essayer de survivre. Donc ils se sont refermés sur eux-mêmes, il y a même un contrôle des monnaies aux frontières, il y a un tas de trucs. Des nationalisations même. Est-ce que c'est pas aussi...
Bah, c'est la tentation des discours sur la démondialisation. C'est l'idée, c'est plus à notre portée d'avoir des instruments nationaux. Donc faisons de la nation l'élément central. Bon. Alors, on peut tout à fait comprendre que dans une situation, par exemple, comme était l'Argentine, on peut techniquement utiliser certains moyens, des protections temporaires, etc. Mais penser que la solution, c'est l'Argentine contre le Chili, etc., à terme, et c'est la solution nationale dans le cadre de mondialisation, c'est faux. C'est une erreur. Et que le problème principal n'est pas de développer les solidarités internationales, mais la compétition avec les autres nations, ça c'est ça l'erreur. Parce qu'on peut temporairement, pendant un an, sur tel marché, s'en sortir contre les autres, on peut faire qu'il y ait des usines qui restent en Argentine et d'autres qui ferment ailleurs. Voilà, ça on peut le faire. Mais on voit bien que ce n'est pas tout à fait la solution. Il est tout à fait... Peugeot aurait pu tout à fait, dans une logique nationaliste, fermer Madrid et dire on laisse ouvert Aulnay. Voilà. Comme le souhaitait Montebourg. C'est possible, ça, techniquement. Mais est-ce que c'est la solution ? C'est la solution, sans doute, provisoirement, pour les travailleurs d'Aulnay, pas pour les travailleurs de l'usine de Madrid. Et donc, il faut faire très attention quand on commence à dire la solution, parce qu'il y a des mesures techniques, mais si la solution, si finalement, dans une compétition mondiale dont on ne change pas les règles, penser qu'on va gagner des meilleures parts de marché contre les autres, à terme... On ne peut pas s'en sortir comme ça.
Oui, mais on ne peut pas tout faire effondrer d'un coup. On ne peut pas tout changer d'un
coup. Donc, oui.
En Islande, ce sont les citoyens qui se sont opposés à l'austérité et qui ont beaucoup pesé pour précisément trouver une solution du côté de ceux qui ont créé la dette et du côté des députés.
Oui, il y a des cas où il y a le cas de ce qu'on a appelé la révolution démocratique en Islande, où la situation de la crise bancaire, etc., a créé un tel traumatisme qu'il y a eu un mouvement, disons, de récupération d'un certain pouvoir citoyen et de redéfinition du cadre représentatif islandais. Voilà. Après, il faut voir dans quelle mesure ça va durer, si ça va durer longtemps, si les professionnels de la politique ne vont pas reprendre la main, bon, etc., si c'est temporaire. Mais bon, voilà, là, c'est un élément important. C'est vrai que ce n'est pas fait beaucoup ailleurs, donc c'est un problème. Mais...
Et puis en même temps, je veux dire, c'est dans une toute petite île qui est l'exemple même du refus complet de l'étranger. Il y a une immigration zéro, ils travaillent et vivent entre eux. Je veux dire, c'est pas vraiment la société rêvée, pas du tout. Alors c'est vrai qu'il y a eu ça, et ça pouvait se faire dans ce coin-là. Comme, je ne sais pas, on trouve normal que dans une famille, il n'y ait pas de rapport d'argent ou un minimum. Bon, mais déconnectant les choses, on s'aperçoit qu'on se retrouve dans un truc monétaire. Donc c'est pas... malheureusement, l'Islande, c'est pas un bon exemple. Quoi. Ouais,
c'est quand même un exemple. C'est quand même un exemple. Dans les autres pays, il n'y a pas de
respect. La
moitié qui écrit, la moitié qui vit, ils sont pas...
Ils ont une sacrée culture démocratique.
Oui. Ah oui, c'est la même culture que les Athéniens. C'est-à-dire, à partir du moment où sont citoyens un nombre réduit de personnes et que l'extérieur, les gens
non citoyens. Ils sont islandais.
Ah, ils sont islandais. Ah, ils sont islandais. Et...
Il n'y a pas grand monde qui veut monter un fichier.
Non, je ne suis pas pour relativiser ce type d'expérience ou même des expériences locales. Le gros problème, c'est comment on met en relation internationale ces expériences locales et nationales. Voilà, c'est ça le gros problème, c'est là où ça pêche. Bon. Comment on fait des réseaux qui créent les relations et qui créent des identités transnationales, bon. Voilà. Qui ne soient pas simplement l'identité nationale comme l'élément primordial. Bon. Alors, le mouvement altermondialiste a commencé avec les forums sociaux, etc. Il y a des choses, mais c'est des choses faibles, encore petites, etc. Il y a eu des choses hein, dans les communes de France à une époque avec les jumelages, mais ça s'est très vite institutionnalisé, etc. Mais c'était une idée pas complètement idiote pour enraciner le lien international localement. Bon. Donc, il faudrait peut-être prendre des initiatives comme ça, que dans les mouvements sociaux, il y ait des jumelages aussi, que la question ne soit pas l'obsession nationale, y compris dans les mouvements sociaux. Qu'à chaque fois, on pense à la connexion avec d'autres éléments qui se passent ailleurs. Bon.
Adopter l'Islandais.
Bien, mais on va s'arrêter là.
Juste une dernière chose. Est-ce que vous avez une référence littéraire
que vous pouvez nous donner concernant la littéraire, en dehors des textes de Chamoiseau, il n'y a pas beaucoup d'altermondialistes littéraires. Mais Chamoiseau, il fait des textes altermondialistes. Oui. Ou Édouard Glissant aussi.